Alors nous allons commencer une série de prières. Et le thème de ce soir, je voudrais que vous soyez très attentifs parce que nous allons aller sur ce thème peut-être sur 2-3 vendredis. Alléluia. Et le thème c'est « Allons dans votre village ». Alléluia. Ça, c'est le grand thème. « Allons dans votre village ». Ça, c'est le grand thème. Et ce soir, nous allons spécifiquement nous attarder sur un sous-thème que j'ai intitulé « Briser les schémas générationnels ». Alléluia. Briser les schémas générationnels. Dis à ton voisin, allons dans votre village. Dis à ton voisin, allons dans votre village. Voilà, maintenant demande à ton voisin, ton village c'est quoi même? C'est où même? Quel est le nom de ton village? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, 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 Baganté n'est pas ton village. Ton village c'est où? Ah, hein, voilà, c'est là où tu es sorti. Alléluia. Baganté est grand. Tu ne veux pas dire je suis né à Douala. Douala est grand. Alléluia. Donc tu es né où spécifiquement? Je suis né à Yaoundé. Non, Yaoundé n'est pas ton village. Amen. Alléluia. Amen. Alors ouvrons rapidement notre livre notre Bible dans le livre de Luc chapitre 19 à partir du verset 29 jusqu'au verset 36. Amen. Luc 19, verset 29 à 36. 29 à 36. Si vous y êtes, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la lecture de la parole? Alors, il est écrit, « Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. » Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenaient à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Ce soir, nous partageons sur ce merveilleux thème, grand thème, que le Seigneur nous a donné. Allons dans votre village, allons dans notre village. Et nous nous attardons ce soir sur le sous-thème « Briser les schémas générationnels ». Alors, il est important de savoir que tout le monde ici vient de quelque part. Personne ne tombe sur la terre comme une manque. Alléluia. Chaque personne est issue d'une famille. Et chaque famille est issue d'un village ou d'une ville particulière. Et le village est une façon de décrire les fondements ou les fondations d'une personne. Quand on parle de ton village, en réalité, on veut juste illustrer ton origine, ta fondation. Alléluia. Et donc, dans ce village, donc, il y a plusieurs choses qui constituent la beauté du village. Par exemple, la culture, la tradition, les mariages, alléluia, qui constituent comme ça la beauté du village. Et donc, ce n'est pas une erreur de naître de la famille dans laquelle on est né, mais ce n'est pas une erreur de naître dans une famille. Cependant, il y a des choses que nous devons regarder qui vont nous aider à évoluer pour bénéficier de la bénédiction qui est liée à cette famille. Alléluia. N'oubliez pas, bien-aimés, n'oubliez pas Genèse chapitre 12, le verset 1 et 2. Dieu dit à Moïse, à Abraham, pardon, qu'il quitte la maison de son père, qu'il quitte sa patrie et qu'il va dans un lieu qui lui montrera. Alléluia. Et il dit au verset 3, 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Autrement dit, quel que soit le lieu où tu es né, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, il y a une bénédiction qui y est cachée. Est-ce quelqu'un avec moi? Il n'y a pas de famille maudite dès la base. Il n'y a pas de famille programmée pour échouer dès la base. Non, nous venons tous d'Abraham. Alléluia. Et la bénédiction d'Abraham est cachée dans toute famille. Cependant, le diable, dans son projet de destruction, vient ensevelir la bénédiction et manifester la malédiction afin qu'elle soit le standard de la famille. Ce soir, je viens rappeler la bénédiction de l'Éternel sur ta famille. Je viens invoquer la bénédiction de l'Éternel sur ta famille. Je viens invoquer la bénédiction de l'Éternel sur ta famille. Je viens invoquer la bénédiction de l'Éternel sur ta maison. Je viens invoquer la bénédiction de l'Éternel dans ton village. Au nom de Jésus. Alors, c'est quoi un schéma générationnel? Les schémas, bien-aimés, ce sont des séquences. Les schémas, ce sont des modèles familiaux qui existaient avant votre naissance, qui existaient avant même votre venue sur la terre et qui se transmettent même aux enfants de vos enfants. Alléluia. Vous voyez? Un schéma. Et chaque fois qu'il y a un modèle familial, Dieu suscite toujours quelqu'un pour briser ce modèle maléfique. Alléluia. Amen. Alors, un modèle, c'est quoi? Un modèle peut se traduire dans un caractère. Un modèle peut se traduire dans un comportement. Un modèle peut se traduire dans une manière de faire, dans une manière d'être, dans une manière de penser d'un lieu précis. Tous ceux qui viennent de cette région se comportent comme ça. Tous ceux qui viennent de tel endroit s'expriment de cette manière. Alors quand tu es en face d'un Bamileke, tu n'as pas deux choses. Tu sais avec son langage que non, celui-ci il vient de l'ouest, de la région de l'ouest. Quand tu es en face de celui qui vient de la région du centre, tu es aussi au courant. Quand tu es en face de celui qui est de la région du littoral, il y a aussi des traits de caractère qui les caractérisent. Est-ce quelqu'un avec moi? Alors chacun vient de quelque part et épouse le vase dans lequel il est sorti. Épouse le caractère, épouse l'attitude, épouse le comportement de là où il sort. Il est difficile qu'un manguier donne naissance à des prunes. C'est même impossible. Alléluia. C'est même impossible. Alors, il est donc important de comprendre que chaque famille venant donc de quelque part a hérité un certain nombre de caractères, a hérité d'un certain nombre de modèles, a hérité d'un certain nombre de schémas qui, peut-être venant même de Dieu ou pas de Dieu, mais qui a une incidence sur les générations futures, qui a une conséquence sur les générations futures. Vous allez voir dans une famille, une personne marcher dans la polygamie. Tous ceux qui vont naître dans cette famille vont subir le principe de la polygamie. Même ceux qui ne voulaient pas entrer dans la polygamie vont s'y retrouver. Alléluia. Parce que quelqu'un a commencé ça et ça s'est traduit dans les générations. Alors le véhicule qui porte les schémas générationnels, le véhicule qui porte les modèles générationnels, bien aimés, d'une famille à une autre, c'est le sang. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention à notre sang. Alors que nous sommes encore jeunes, beaucoup d'entre nous ici ne sont pas encore mariés. Beaucoup d'entre nous ici ne se sont pas encore engagés dans une certaine alliance. Vous devez faire attention avec quel type de sang vous allez vous mélanger. Alléluia. Parce que ça affectera les générations qui vont venir. Alléluia. Alors dans notre texte d'étude de ce soir, nous voyons clairement une histoire d'un ânon. L'ânon, c'est le petit de l'âne. Alléluia. C'est le petit de l'âne. Ce n'est même pas l'âne. Et la Bible nous dit ici que lorsque Jésus s'approchait de Bethphagé, entre Bethphagé et Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus va envoyer deux de ses disciples dans le village. Et il va dire, allez dans le village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Eh bien aimé, étonnamment, l'ânon de ce texte, l'ânon de Luc 19 que nous venons de lire, était attaché non pas parce qu'il avait commis un péché, non pas parce qu'il s'était mal comporté. L'ânon était attaché tout simplement parce que il possédait un potentiel que certains gens voulaient s'en approprier. Alléluia. Voyez? En fait, personne ne s'était assis sur l'ânon pour qu'elle puisse être un instrument de péché. Elle était encore dans toute sa virginité, si vous me permettez l'expression. Alors, ce qui implique que l'ânon était pur, mais pourtant il était attaché. Pourtant il était limité. Écoutez bien, votre pureté, votre absence de péché n'empêchera pas les modèles familiaux de vous attacher. Alléluia. Moi, j'ai jamais fait ça. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Non, non. Votre pureté et votre bonne moralité n'empêchera jamais que les modèles générationnels d'échec, d'opprobre, de honte soient aussi votre portion. Amen. Vous allez voir des jeunes femmes en vouloir peut-être parfois à leur maman, ah non, toi tu as mal vécu ta vie, ma part je vais la vivre autrement. Et eux, malheureusement, ils vont à l'école, ils ont de grands diplômes, mais se retrouvent malheureusement là où leur mère a échoué. Malgré tous leurs efforts. Pourquoi? Parce que le modèle générationnel n'est pas soumis à l'éducation d'un homme. Le modèle générationnel n'est pas soumis au diplôme d'un homme. Le modèle générationnel n'est pas soumis à la beauté d'un homme. N'est pas soumis à la taille d'un homme. C'est soumis à la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Je prie pour toi ce soir. Je viens briser l'emprise de tout autel de modèle familial qui a été lié dans ta vie et qui t'a restreint durant toute ta vie au nom de Jésus. J'ordonne que tu rentres en cette année dans ta saison de percée au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Luc que nous venons de lire, 19, le verset 30, bien que ce soit Jésus qui ait envoyé des messagers au village, voyez? On a tendance à se dire, ah non, mais comme c'est le Seigneur, tout le monde va certainement se mettre en cadre pour pouvoir obéir à la volonté du Seigneur. Du Seigneur. Jésus qui a envoyé les messagers au village pour détacher l'ânon. Mais lorsqu'on va se mettre à détacher l'ânon, la Bible dit qu'à côté, il y avait des hommes qui veillaient sur l'ânon. Ah oui, beaucoup de nos destinées sont attachées quelque part. Vous savez, aucun sorcier dans le monde ne peut affecter ta vie si un sorcier dans ta maison n'a ouvert la porte. Alléluia. Alléluia. Aucun sorcier. La sorcellerie repère les liens et les portails générationnels dans nos familles. Amen. On ne propose pas. Écoutez, il y a des gens que même s'ils entrent dans la sorcellerie, on va les rejeter. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas le potentiel, mais parce que dans sa lignée, en lisant sa lignée, il n'y a pas ça à l'intérieur. Alléluia. Le sorcier va dire, non, tu n'as pas les éléments nécessaires pour ça. Et on va rejeter ta candidature. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit ici à partir du verset 32, La Bible dit, ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Voyez, comme il détachait l'anon, le verset 30, 33, ses maîtres, qui étaient les maîtres de l'anon? Qui sont les maîtres de ta vie? L'anon ici représente ta destinée. L'anneau ici représente ton futur. L'anneau ici représente le plan de Dieu pour ta vie. L'anneau ici représente le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Mais c'est attaché quelque part. C'est limité dans un domaine spécifique. Alléluia. Ça veut dire que tu peux te déployer dans tous les autres domaines, sauf dans ce domaine-là. L'anneau est attaché. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, l'anneau de ta destinée va être libéré. J'ai dit, l'anneau de ta destinée va être libéré. L'anneau de ta destinée va être libéré. Au nom de Jésus. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres lui disent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Écoutez, il y a des gens méchants dans la vie. Hein? Leur joie, c'est que tu sois dans la honte. Leur joie, c'est que tu sois dans l'humiliation. Leur joie, c'est que tu sois dans la mendicité. En réalité, ça ne leur apporte rien. Mais il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu restes à ce niveau-là. Il faut que tu restes à ce statut-là. Il faut que tes enfants se retrouvent dans cette situation-là pour qu'ils se sentent à l'aise. Pas que ça leur permet de construire des immeubles. Eux-mêmes vivent dans la pauvreté. Mais le simple fait que tu es dans la pauvreté aussi. Il dit, ah, mon ennemi est dedans, donc ça va. Même s'il fait 5 jours sans manger, il est content. Alléluia. La Bible dit, ses maîtres leur dit, pourquoi détachez-vous l'anon? Oh, bien-aimé, ce soir, l'ennemi ne veut pas qu'on te détache. Alléluia. Il dit, pourquoi on doit te détacher ce soir? Pourquoi on doit libérer ce domaine de ta vie? Pourquoi tu dois avancer dans ta destinée? Pourquoi tes enfants doivent marcher? Pourquoi ta maison doit être stable? Pourquoi tes finances doivent être manifestes? Pourquoi? En d'autres termes, pourquoi tu dois sourire? Pourquoi tu dois être contente? Pourquoi tu dois te réjouir, toi et ta maison? Alléluia. Alléluia. Écoutez, lorsque Dieu est prêt à vous délier et à vous libérer de l'autel du village, les gens s'opposeront et poseront des questions. Alléluia. La Bible raconte l'histoire de Saül après sa rencontre avec le prophète Samuel. Il va dormir dans la maison de Samuel. Samuel va le oindre comme roi. Samuel va prophétiser sur sa vie. Samuel va l'annoncer les projets de Dieu pour sa destinée. Et Samuel va lui dire au petit matin, rentre. Les brebis que tu as perdues, on les a retrouvées. Et la Bible dit que Saül va prendre la route pour aller chez eux. Et sur le chemin, il va rencontrer son oncle. Et son oncle va lui dire, écoute, Samuel, Saül, où étais-tu? Il dit, j'étais avec Samuel. Il dit, raconte-moi tout ce que Samuel t'a dit et n'oublie rien. Saül, qui savait que cet homme n'était pas correct. Nous avons comme ça dans nos familles des oncles maléfiques, des tantes maléfiques, des cousins maléfiques, des cousines maléfiques, des nièces et des neveux maléfiques, qui viennent s'informer sur les plans de Dieu dans nos vies pour mieux nous détruire. Et la Bible dit que Saül va simplement dire non. Le prophète m'a simplement dit que les ânes qui ont été perdus ont été retrouvés. Il dit, ah, c'est tout? Il dit oui. Il dit, ok. Histoire de dire que, bien-aimé, ce n'est pas avec tout le monde que tu dois partager les secrets de ta destinée. Ce n'est pas avec tout le monde. Je prophétise dans ta vie que tout modèle familial qui t'a attaché à l'autel de ton village est brisé par le feu au nom de Jésus. Est brisé par le feu au nom de Jésus. Est brisé par le feu au nom de Jésus. Est brisé par le feu au nom de Jésus. Écoutez-moi ce que Jésus dit. Les disciples vont dire, le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, tant
que Dieu n'a pas besoin de ta vie, tu ne peux pas sortir de ce piège-là. Tant que le Seigneur n'a pas besoin de ta vie, tu ne peux pas sortir de cette captivité. Et comment nous devenons un projet de Dieu au moment où nous donnons notre vie à Jésus? Quand nous donnons nos vies à Jésus, Jésus a besoin de nous. Mais avant cela, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Quand tu vis dans le péché, il n'a pas besoin de toi. Mais au moment où tu renonces à la vie de péché et tu décides de t'aligner dans sa pensée, alors là, il a besoin de toi. Et il envoie de l'aide pour ta délivrance. Et ce soir, je viens comme l'aide de l'Éternel pour aller à la fondation de ta famille, pour aller à la fondation de là où tu étais lié, de là où ta destinée était attachée, pour commander ta délivrance, pour commander ta délivrance, pour commander ta délivrance, pour commander ta délivrance. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Jusqu'à ce que Jésus ait besoin de l'anon, celui-ci est resté attaché et handicapé, sans aucune valeur. Écoutez, parce que Dieu a besoin de toi, tout comme cet anon, c'est la raison pour laquelle les forteresses générationnelles qui t'attachaient doivent se briser et te laisser partir. Alléluia. Écoutez-moi, quand Dieu a besoin de quelqu'un, aucun démon de son village ne peut couvrir sa gloire. Aucun démon. Parce qu'il a besoin de toi. Je viens de dire à quelqu'un, l'Éternel a besoin de toi. Jésus a besoin de ta famille. Jésus a besoin de ton travail. Jésus a besoin de ton mariage. Jésus a besoin de tes entrailles. Jésus a besoin de ta destinée. Jésus a besoin de ta santé. Jésus a besoin de tes forces. Jésus a besoin de ton intelligence. Jésus a besoin de ta sagesse. Au nom de Jésus, je me déplace par le vent de la prophétie et je défais tout ce que le diable a fait dans ta vie pour t'attacher au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour te rendre inutile, je défais ces liens au nom de Jésus. Alléluia. L'anon a été délibérément attaché. Vous voyez, le maître dit, pourquoi le détachez-vous? Ça veut dire que c'est consciemment qu'on l'avait attaché. C'est consciemment qu'on a livré ta vie. Alléluia. Écoutez, Jésus à la croix va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en réalité, ils savaient ce qu'ils faisaient, mes bien-aimés. L'ennemi sait pourquoi il te détruit. L'ennemi sait pourquoi il cherche à arrêter ta marche. Alléluia. Il sait. Et la raison, c'est simple. Tu étais un danger. Tu étais un danger. Tu étais un danger. Tu étais un danger. Voyez? L'anon a été délibérément attaché à l'entrée du village. Il était à l'entrée. Il ne pouvait ni sortir, ni entrer profondément. Donc, il lorgnait la réussite des autres. Il lorgnait l'élévation des autres. Il lorgnait la célébration des autres. Il lorgnait la santé des autres. Mais lui, il croupissait dans le cachot du désespoir. Alléluia. Les autres réussissaient. Les autres avançaient, traversaient, réussissaient, se mariaient, prospéraient. Mais lui, il était au même endroit. C'était le genre, regarde, mais tu ne mangeras pas. Regarde, mais tu ne te réjouiras pas. Acclame pour les autres, sauf pour toi. Alléluia. Voyez? On l'avait attaché à l'entrée du village afin qu'il puisse voir les autres réussir tout en restant attaché. Il portait les gens, il formait les gens et ils partaient. Ils avaient la promotion. Lui, il était au même endroit. Il était au même endroit. Vous allez voir quelqu'un 13 ans au même endroit. Il a formé toutes les générations. Ceux qui sont aujourd'hui ses patrons, c'est lui qui les a formés. Tu es au même endroit. Par l'autorité prophétique qui est sur ma vie. Je viens bousculer ta vie. J'ai dit, je viens bousculer ta vie. Je viens bousculer ta vie. Sors de là! Sors de là! Sors de là! Sors de là! Et entre dans ta destinée en cette année au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Alléluia! Alors qu'ils se rassembleront pour t'attacher, ils se disperseront. Ils se disperseront. Ils se disperseront. Cette année est ton année. Je dis, cette année est l'année de ta famille. Cette année est l'année de tes enfants. Cette année est l'année de tes entrailles. Au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, ce que les gens ne comprennent pas, ils le critiquent. Même s'ils vous comprennent, ils peuvent vous détruire. Alors laissez votre vie être un mystère pour eux. Permettez-leur de supposer et de rester dans la confusion. Alléluia. Restez dans la confusion. Peut-être. Et c'est ce qui s'est passé. Les serviteurs ont simplement dit, le Seigneur en a besoin. Ils n'ont pas expliqué plus que ça. Pourquoi tu fais ça? Non, tu sais, je vais t'expliquer un peu ma vie. Pourquoi, ce qui m'a poussé pour arriver ici. Tu es mort. Tu es mort. Le Seigneur dit, répondez simplement, le Seigneur en a besoin. Pas d'explication. Pas d'explication. Ah, je vois que Dieu t'a béni avec le fruit des entrailles. Hey, ma soeur, assois-toi, je vais te raconter. Tu racontes à qui? Tu racontes quoi? Est-ce que c'est quelque chose à raconter? Ah, je vois, enfin, tu t'es marié. Ah, ma soeur. Ah, mon frère. Laisse, trop de souffrance. Je vais te faire mon témoignage. C'est pas un témoignage. Tu donnes, c'est les renseignements que tu donnes. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour un homme, un couple de pasteurs au Gabon. J'ai prié pour eux. Et quand j'ai libéré la prophétie, j'ai dit à cette dame, je vois un homme, un grand homme, te recruter dans son entreprise. Elle dit amen. Et je lui ai dit, ok, retrouvons-nous dans 2 jours et puis on va continuer la prière. 2 jours après, on se retrouve dans la prière. Et le mari qui est pasteur me dit, ah, apôtre, vraiment ta parole prophétique est dangereuse. À peine on t'a quitté que le directeur général de l'équivalent de la Camtel l'a appelé. Je veux que tu sois, on a vu son dossier, on a dit que viens, on veut que tu sois secrétaire particulière du cabinet du directeur. Elle a passé l'entrevue. Et on discute. Et dit, ah, alléluia. Il dit vraiment, et le pasteur me dit, apôtre, ce témoignage m'a tellement touché. J'ai appelé ma belle-mère, je lui ai tout dit. J'ai dit, hein? Il dit non, elle-même elle est pasteur. Il y a pasteur. Quand il m'a dit ça, j'ai dit attends, tu as raconté tout. Il dit tout. Hey. Il dit tout comme tout, T-O-U-T. Il dit tout, T-O-U-T. J'ai dit oh. Frère, la même semaine, avant la fin de la semaine, le boulot l'a changé. Je ne dis pas que la maman était sorcière, mais je dis qu'au travers de la maman, il y avait une manipulation satanique. Il y a des messages que Dieu va libérer dans ta vie. Tu n'as pas le droit de partager avec tout le monde. Qui qu'il soit un prophète qui écoute Dieu comme si c'est le tonnerre. Tu gardes pour toi. Alléluia. 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 Ce jour-là, quand cet homme a parlé, j'ai secoué la tête. L'Esprit de Dieu m'a dit, c'est foutu. Il dit, oh. Il dit, apôtre, est-ce que j'ai mal fait? Il dit, frère, demandons pardon à Dieu. Frère, demandons pardon à Dieu. Je ne sais pas comment je vais expliquer cette histoire. Et je lui ai dit, qui a oint ta belle-mère? Je vois une huile qui n'est pas correcte sur sa vie. Il dit, ah, apôtre, il faut que tu viennes au Gabon voir ma belle-mère.
Elle a même demandé ton numéro. Elle dit, ne lui donnez pas mon numéro. Vous savez, il y a des gens avec qui tu discutes, c'est comme si on t'aspire. Comme si on t'aspire. Alléluia. C'est comme si on t'aspire. Tu discutes 5 minutes, tu sors, c'est comme si tu as fait le marathon. Tu es épuisé. Tu es épuisé. On a bu ton énergie. Alléluia. On a bu ton énergie. Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que les gens ont posé des questions. Mais les disciples ont simplement dit, le maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que tu n'as pas besoin de partager la profondeur avec tout le monde. Tu donnes juste le titre. Celui qui veut comprendre, comprend. Alléluia. Celui qui veut comprendre, comprend. Ta vie est un document de la grâce de Dieu. Chapitre après chapitre, à chaque étape de ta vie, la grâce de Dieu a joué un rôle. C'est pourquoi tu es toujours en mouvement. Si tu vérifies certaines des choses que tu as traversées dans ta vie, tu sauras que c'est bien la grâce de Dieu qui t'a gardé et non tes œuvres. Et si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Sinon, la grâce n'est plus la grâce. Alléluia. Alors, ne vous plaignez pas de ce qui ne marche pas dans votre vie. La grâce qui a commencé l'achèvera pour votre bien. Alléluia. Vous savez, on n'est pas différent de nos parents qui étaient dans le désert. Chaque jour, on lit leur histoire, ils se plaignaient, ils se lamentaient. C'est la même chose. C'est la même chose. On se plaint, on se lamente, on se plaint, on oublie les victoires d'hier. On oublie les réussites d'hier et l'ennemi en profite pour nous déstabiliser. L'ennemi en profite pour nous mettre hors d'état de nuit. J'ai partagé un jeudi ici avec ma fille Nadège. Elle était boostée, la foi était forte, elle était solide. Elle est partie. Elle a eu un coup de téléphone. Elle a discuté avec quelqu'un. La même semaine, elle est tombée malade 2 fois. Alléluia. Elle a débarqué ici à l'église. Va papa Emma. Allez, va pas. Allez, va pas. Maintenant, parce que le coup de fil avait ouvert la porte dans sa vie, bien-aimé, même les chats venaient la croquer. Même les souris venaient l'attaquer. Tout le monde l'attaquait. Même le cancrela l'attaquait. Papa, j'ai vu le chat traverser, venir droit sur moi. Si tu es son frère. Et quand elle a raconté, je comprenais. Après, il lui a dit, tu sais, quel est le coup de fil que tu as reçu? Le message était quoi? Quand elle a expliqué, elle dit, voilà tout ton problème. Elle dit, c'est vrai papa, c'est ce moment-là que j'ai su, tout est fini. Toutes mes forces sont chutées. Il y a des gens, bien aimés, que lorsque tu n'es pas encore solide, ne parle pas avec eux. Ils peuvent même être des êtres chers à ta vie. Si ce qu'ils doivent dire ne va pas t'aider à évoluer, ne parle pas avec eux. Attends jusqu'à ce que tu sois fort et tu parles. Parce que dans ta faiblesse, ils vont te rendre, t'affaiblir encore davantage. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas dit de soupçonner vos bien-aimés. Je dis, ils peuvent être des porteurs inconscients de la volonté de Satan pour vous nuire. Alléluia. Je parle beaucoup plus parce que dans le cadre du mariage, c'est alors friand. Tu as fait comment pour ne pas parler avec ton mari? Amen. On va prier là, tu vas rentrer là, boum, boum, boum. Tu vas arriver à la maison, il va être fainéant. Tout va descendre. Alléluia. Tu sors d'où? Tu as prié, hein, Mère Teresa. Boum, tout à terre. Alléluia. Santa Maria, boum, tout est à terre. Alléluia. Toi, tu dis Joseph Marie, boum, tout est à terre.
Alléluia.
Qui a attaché ta vie? Ne vous plaignez pas de ce qui ne marche pas. Tout est un principe et un processus de la grâce. Vous avez reçu par la grâce, alors ne vous orgueillissez pas. Alors, cette chose à savoir sur votre famille pour briser les schémas. Amen. Cette chose que vous devez savoir sur votre famille pour pouvoir briser les schémas. Première chose que vous devez savoir, identifiez les faiblesses de votre famille. Alléluia. Identifiez les faiblesses de votre famille. Regardez ce texte dans le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 4. C'est l'histoire d'Élie qui, après être poursuivi par Jézabel, va aller se cacher dans le torrent de Kérib et il va commencer à parler quelque chose de terrible. Il va dire à Dieu, la Bible dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ah, ah. Pour un petit défi, tu as déjà raconté pas mal de choses dans ta vie. Alléluia. Voici quelqu'un qui avait une tendance suicidaire. Qui avait une tendance suicidaire. 1 Roi chapitre 19. Est-ce que tu es là? Tu es là? Donc, Élie fuit dans le désert. Et dans le désert, il crie sa faiblesse. C'est à ce moment qu'on se rend compte, le grand Élie qui a fait descendre le feu, c'était rien du tout. Alléluia. C'était rien du tout. Alors, certaines familles ont des faiblesses telles que les commérages, telles que l'ivrognerie, telles que l'impudicité, l'amertume, la peur, la colère. Il faut identifier cette faiblesse-là. Et la traiter. Et la traiter. À un moment donné, Élie a fait une pause sous le genêt. Et lorsqu'il a évalué sa vie, il a vu qu'il n'était pas meilleur que ses pères. Ça veut dire que tous ses pères, personne n'est allé nulle part avec sa vie. Alléluia. À un moment, Élie a cru que parce qu'il invoquait le feu, il pouvait aller plus loin. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant une situation, il a dit, ah Seigneur, même mes pères, ils étaient mieux que moi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il semblait que leur faiblesse l'avait rattrapé. Les faiblesses de ses parents, de ses grands-parents, l'avaient aussi rattrapé. Quelles sont les faiblesses de ton père? Quelles sont les faiblesses de ta mère? Donc toi aussi tu fais face aujourd'hui. Alléluia. Donc toi aussi tu fais face aujourd'hui. Deuxième chose à savoir sur votre famille pour pouvoir briser les schémas, bien-aimés. Vous devez connaître son histoire familiale. Vous devez connaître votre histoire familiale ou ses composantes généalogiques. Vous devez connaître votre histoire familiale. Alléluia. Vous devez connaître votre histoire familiale. En médecine, on demande toujours de connaître les maladies qui existent dans l'histoire de votre famille. C'est ça qu'ils appellent l'hérédité. Alléluia. Quand c'est que l'histoire peut influencer la destinée? Que savez-vous de votre histoire familiale? Qui était votre père? Qui était votre mère? D'où vient ton père? D'où vient ta mère? Alléluia. Observez dans Marc chapitre 12, le verset 20 au verset 22. Il est question là-bas de sept frères qui se sont mariés avec la même femme. Et tous sont morts mystérieusement parce qu'il y avait une histoire familiale de mort prématurée et que personne n'avait rien fait pour y remédier. Sept hommes ont épousé la même femme. Ils sont tous morts. La femme est restée toujours au marché. Alléluia. Elle est restée toujours en plein marché. Elle était toujours disposée pour se remarier. Mais elle était forte. Hein? Il y en a aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à avoir un. Alléluia. Elle a eu sept maris dans la même famille. Sept frères. Premier meurt, le deuxième fait le veuvage. Il meurt, le troisième fait le veuvage. Il meurt, le quatrième fait le veuvage. Il meurt. Hey, frère, vous-même, vous allez chuquer la tête. Qu'est-ce qui se passe? Ton grand frère est mort. Ton autre grand frère est mort. Toi-même, tu dis, tu veux aussi aller là-bas. Il y avait un envoûtement familial. Vous voyez la faiblesse? Vous voyez la faiblesse d'une famille. Vous voyez l'histoire d'une famille.
Lorsque vous étudiez l'histoire de votre famille, vous pouvez changer les schémas. Si vous vérifiez par exemple l'histoire d'Abraham, vous constaterez que de la même manière qu'Abraham a menti, ce même esprit de mensonge a été transmis à Isaac par le biais de l'histoire de la famille. Isaac a menti. Ensuite, Isaac a eu Ésaü et Jacob. Jacob a menti. C'est pas ça? Ensuite, Jacob lui-même est devenu Israël. Il a eu les 12 enfants. Il a eu 12 enfants. Les 12 ont aussi menti. C'est ça, n'est-ce pas? C'est la lignée qui a continué le mensonge. Alors, quelle est l'histoire de votre famille? Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, questionne ceux qui sont passés avant toi. S'il y a encore des aînés dans la famille, questionne-les. Troisième chose que tu dois savoir pour pouvoir briser les schémas, connaître et vaincre l'ennemi de sa famille. Bien-aimé, connaître et vaincre l'ennemi de votre famille. Ne nourrissez pas l'ennemi de votre famille. Ne nourrissez pas l'ennemi de votre famille. Qu'il s'agisse de votre famille physique ou spirituelle, cessez d'essayer de faire la paix avec les ennemis de votre famille lorsqu'il est évident qu'ils ne veulent pas faire la paix avec vous. Alléluia. Laissez-vous guider. Ne haïssez pas vos ennemis, mais ne les laissez pas vous tuer au nom de la paix. Alléluia. Ne les laissez pas vous tuer au nom de la paix. Vous devez connaître et vaincre l'ennemi de votre famille. Voyez? Lorsque nous nous retrouvons dans la bataille de David contre Goliath dans le livre de 1 Samuel, alléluia, nous voyons comment Samuel va aller dans le ruisseau prendre 5 pierres. Mais on se demande, mais pourquoi Samuel a pris 5 pierres alors qu'il ne faisait que face à un seul ennemi? Mais David, qui était un homme de guerre et un homme spirituel, savait qu'il y avait une bataille présente et une bataille future. Alors les 4 autres pierres, il les a investies dans la vie des hommes qui étaient à côté de lui pour tuer les autres frères de Goliath, qui étaient 4, parce qu'ils étaient 5. Alléluia. Ils étaient 5 frères. Le dernier, on dit qu'il n'avait pas de nom. On ne donne pas son nom. On dit un des frères de Goliath, on ne donne pas son nom. C'était le dernier, c'était le plus violent. Alléluia. Amen. Alors vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas l'ennemi de votre famille, comment vous allez vous le battre? Vous allez voir des gens aujourd'hui combattre. Ils sont dans le combat spirituel depuis 20 ans, 30 ans. Chaque jour, ça change de visage. Non, c'est tonton X. Non, c'est tata X. Maman, c'est... Amen. Et le démon lui-même joue avec vous pour faire le ping-pong. Alléluia. Aujourd'hui, non, j'ai vu Claire, c'était elle. Le lendemain, ça change. C'est Claire, c'est elle. Claire, c'est elle. Claire. Quand tu tombes à terre, dis non, c'est Georges. Demain, dis c'est Georgette. Demain, alléluia. Tu n'es pas fatigué? Dis avec moi, oh Dieu, révèle-moi l'ennemi de ma famille. Révèle-moi l'ennemi de ma famille. Révèle-moi l'ennemi de ma vie et de ma famille. Alléluia. Contre qui te bats-tu? Contre qui te bats-tu? Sois-toi bien-aimé. Une autre chose que tu dois savoir pour pouvoir détruire les schémas maléfiques, les schémas générationnels. Bien-aimé, franchis les limites de la famille. Franchis les limites de la famille. Amos chapitre 7, le verset 12 à 15. Amos 7, 12 à 15 dit, et Amasia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. C'est le roi Amasia. Il dit au prophète que non, on ne veut plus de ta prophétie, on ne veut plus de tes révélations, de tes visions, va loin prophétiser. Nous, on ne veut pas entendre ta prophétie. Alléluia. Il dit, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi. Et c'est une maison royale. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Vous voyez, il y a des familles qui ont des frontières que personne dans la famille n'a franchies. personne dans la famille n'a franchi. Vous devez identifier ces frontières et les franchir par le feu. Alléluia. Il y a des gens dans des familles, on ne peut, dans, il y a certaines familles dans lesquelles on ne peut pas dépasser le baccalauréat. Il y a des familles dans lesquelles on ne peut pas entrer dans le lien du mariage, sinon quelqu'un meurt. Alléluia. Alléluia. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a même pas un intellectuel. Personne n'est jamais allé au-delà du BPC. Celui qui lit la lettre pour toute la famille, là, le CEP. Amen. Quand la lettre vient, le chef, allez voir tonton, il va lire, vous dire ce qui est dedans. Alléluia. Et lui, il gonfle au village parce qu'il a le CEP. Vous, vous avez quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous voyez? Des limitations ont été positionnées dans certaines familles qui font que, quel que soit le lieu où ils se retrouvent, ils sont des prisonniers. Ils sont attachés. Ils sont attachés. On n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans leur village, enlever la corde les spirituelle et ça les suit partout où ils se retrouvent et ils sont attachés là-bas. Amos dit, je ne suis pas un prophète. Et en vérité, Amos n'était pas un prophète. Amos fait partie des hommes qui n'étaient pas au départ prophètes. Mais parce qu'il manquait de prophètes, Dieu l'a pris et l'a utilisé comme prophète. C'était un berger. Le roi lui dit, va prophétiser ailleurs. Pas ici. Tu me gênes. Tu me fatigues. Tu vois mes choses. Ouais, il appelle homme à vision. Ça veut dire que Amos, vous vous souvenez, Amos avait que des visions. Il avait que des visions. Cinquième chose que vous devez savoir pour pouvoir détruire les schémas. Alléluia. Après que vous avez franchi les limites de la famille, vous devez briser les schémas de famille. Alléluia. Vous devez briser les schémas de famille. Deux Rois chapitre 13. Les schémas de maladie. Vous devez briser les schémas dans vos familles. Deux Rois chapitre 13, le verset 14. On parle ici d'Élisée qui était atteint de la maladie dont il mourut. Regardez le grand prophète Élisée. Qui? Élisée a fait des miracles. Même son cadavre a réveillé un mort. Mais l'onction qui était dans ses os n'a pas pu le guérir lui-même. C'est bizarre, n'est-ce pas? Entre la maladie et la mort, qu'est-ce qui est pire? La mort. Mais ses os réveillent un mort. Il y avait l'onction dans ses os, mais cette onction n'a pas pu le guérir. Pourquoi? Parce que c'est un schéma. C'est un schéma. Alléluia. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Bien-aimé, occupez-vous des maladies étranges qui ont écouté la vie des membres de votre famille. Si dans votre famille, les gens meurent par le cancer, meurent par l'hypertension, vous, à votre tour, prenez le temps de prier dessus. Dis, ah non, moi, les choses anciennes sont passées. Tu vas confirmer ça quand tu vas voir les étoiles. Alléluia. Non, tu vas te souvenir de cette parole-là et tu vas dire, mince, tu seras paralysé. Parce que tu as pris les choses à la légère. Regardez Moïse. Moïse entrait dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il était tel dans la présence de Dieu que son visage s'illuminait. Mais dans cette présence, il n'a pas pu gérer la colère qui était en lui, qui était générationnelle, qui avait arrêté son grand-père et qui à son tour cherchait à l'arrêter. L'onction n'a pas suffi. C'est pourquoi vous devez savoir que l'onction ne travaille pas le caractère. C'est la parole, la mise en pratique de la parole qui change le caractère d'un homme. Alléluia. Alléluia. Vous devez découvrir quelle maladie générationnelle a été implantée sataniquement dans votre famille pour causer des morts prématurées. Écoutez. Dans la famille de mon père, les gens perdent vite la mémoire. Alléluia. Très tôt, perdent la mémoire. Alléluia. Dans la famille de ma mère, les gens ont des problèmes avec le cancer. Alors, moi, si quand je prie, je mets ces choses-là dans la prière, dis-moi, ça ne sera pas ma portion. Je traite ça depuis la fondation. Et je dis, mes enfants, ils ne vivront pas cette histoire-là. Leur histoire change. Alors ne crois pas que parce que tu es enfant de Dieu aujourd'hui et que tu ne prends pas le temps de traiter un certain nombre de choses, tu seras à l'abri de cette chose-là. Non. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sixième chose que vous devez savoir. Vous devez connaître le nom de la racine de votre famille. Le nom de la racine de votre famille. Chaque nom porte une marque prophétique. Si votre nom de famille n'est pas en accord avec votre destinée, vous avez le droit de le changer. Chaque nom est une revendication. Quel que soit le nom qu'on vous donne, c'est la revendication que vous acceptez. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alléluia. L'autre jour, on parlait ici, certains des bien-aimés donnaient l'explication de leur nom de famille. Pour certains, c'était la mort. Pour d'autres, c'était quoi là? C'était les complications, les difficultés, les problèmes. Amen. Comment toi-même, tu es allé à l'école, tu as le doctorat, tu es fier du nom qu'on t'a donné qui s'appelle mort. Alléluia. Tu prends ton nom, tu donnes à ton enfant. Tu dis que toi-même, tu dois être bien. Alléluia. Le nom-là a un mauvais fondement. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas simplement le partage des noms, même des prénoms. Quel type de prénom vous donnez à vos enfants? J'ai vu des personnes porter les prénoms de certaines personnes qui vivaient dans la prostitution. Eux, ils ne se sont jamais mariés. Parce qu'ils portaient le prénom. Ah non, l'enfant là, c'est ça mon homonyme, donnez-lui mon prénom. Toi, tu prends le prénom, tu donnes. Parce que tu ne peux pas donner le nom. Tu donnes le prénom. Mais la personne porte la paternité de ce prénom. Et ça affecte la destinée de cette personne. Demain, tu veux que tes enfants aillent en Europe. Tu dis que non, on change leur nom. Quelqu'un prend sa paternité là-bas, il donne le nom à tes enfants deviennent des Français déjà. Ah! La vie est d'abord spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La vie est d'abord spirituelle. Ne porte pas n'importe quel prénom ou n'importe quel nom. Alléluia! Ah, j'ai prié sur mon nom et j'ai prié sur mon prénom. Chaque 14 février, on célèbre mon prénom. 14 février, on était dans un aéroport. J'arrive à l'aéroport, on me doit aller essayer de prendre le vol. Le 14 février, on m'arrête d'abord parce que la dame, elle lit. Ah, Valentin. Ah, ah, c'est aujourd'hui. Hey, j'ai dit, c'est moi-même. Elle dit, ah, il faut nous donner quelque chose. Elle dit, et la Valentine, elle dit, la voilà elle-même. Elle est à côté de moi. Ma mère était à côté aussi, on faisait son contrôle. Elle dit, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as seulement une femme ici dehors. Elle dit, la voilà, je n'ai pas deux. Vous voyez? Cet esprit amène l'impudicité. L'impudicité. On arrive à Bangui, on passe par le contrôle et la dame là, elle dit, ah, c'est toi. Elle dit, c'est moi-même. Donc toute la journée là, C'est une journée qu'elle doit être dans le jeûne en principe.
Elle dit, non, on dit que quoi, alors vous dites que quoi? J'ai dit, j'ai rien à dire. Contrôlez-moi, vous me laissez partir. S'il y a un truc à demander, vous demandez. Heureusement, celle qui était du côté du Cameroun a demandé. J'ai même oublié mon téléphone, tellement elle m'a fatigué. J'ai oublié mon téléphone devant elle avec toute ma carte de santé. Et j'ai oublié ça devant elle. Je suis allé fouiller dans tout l'intérieur. Revenir, elle dit, tu vois, c'est un signe. Tu dois me donner quelque chose. J'ai dit, j'arrive. Je n'ai même pas de porte-monnaie sur moi. Alléluia. Mais bien aimé, tu dois connaître le nom ou le prénom que tu portes. Parce qu'en cela, il y a une revendication. Il y a une revendication. Tous les noms qu'on porte sur la terre ont une implication sur le plan spirituel. Ont une implication sur le plan spirituel. Regardez, la Bible dit au livre de Luc. Luc, quand on a voulu donner le nom de Jean à Jean Baptiste, le Baptiste, la Bible dit que on a commencé à fouiller, on a demandé à la maman dit Jean. On dit non, c'est même pas d'abord la femme qui donne le nom à l'enfant, c'est le père. Alléluia. Parce que chacun avait l'intention de donner un patronyme, chacun voulait que ce soit son homonyme. Quand même l'enfant fait, la mère et le père, ils ont enfanté dans un âge avancé. Amen. Donc tout le monde veut donner le nom à ce type d'enfant-là, parce que ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce sera mon homonyme. Le père a dit que non. Il donnait le papier, il a écrit Jean. Tout le monde était dans l'étonnement. Pourquoi est-ce que les gens discutent de donner le nom à ton enfant par hasard? Là, tu es seulement fâché. Ok, donnez. Maman, donnez. On donne quoi? Tu, Sergio, Marima, tu mets. Hein? C'est quel prénom ça? Marima, elle sort dans l'eau. Elle vit sa vie dans l'eau comme une sirène. Ça ne te dit rien. Demain, ton enfant va seulement faire les top modèles, dans l'eau. Tu ne vas pas comprendre. Tu lui as donné le prénom des gens qui vivent dans l'eau. Je ne sais plus quelle série vous voyez aujourd'hui. Je ne connais plus les prénoms. Alléluia. Attention, Vanessa. Faut bien choisir. Amen. Faut pas blaguer. Faut pas entrer dans les... On a donné là-bas Samuel. Le Seigneur a donné Samuel. Il monte, il descend. On l'a dédicacé. Voilà. L'autre est là-bas. Les trois autres, ils sont là-bas. Même si demain, il faut comme ça, le nom là va le ramasser, jeter à terre. Parce que ça porte un esprit. L'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça porte l'esprit de Dieu en lui. Et ça va l'influencer. Qu'il le veuille ou pas, ça va l'influencer. Ça va tous les influencer. Les noms qu'ils portent, ça va les influencer. Non, voilà, mais Mombo, lui, il porte mon prénom. Je prie sur mon prénom chaque jour. Lui, là, ça va aller. Alléluia. Il ne va pas regarder beaucoup de femmes. Il ne va regarder que sa femme. Nom de Jésus. Amen. Septième chose que nous devons connaître. Nous devons connaître les idoles que nos familles ont adorées ou adoraient. Les idoles. Les idoles, en d'autres termes, les totems. Quels sont les totems qui étaient les plus célébrés dans votre famille? Vous devez savoir qu'en fonction du nom que tu portes et en fonction du rang que tu portes, tu as droit à un type de totem. Alléluia. Est-ce que vous savez ça? Tout le monde ne peut pas avoir le totem du lion. Tout le monde ne peut pas avoir le totem de la panthère. Alléluia. Sur quoi vous allez voir des gens avoir les totems de cancrela? Même dans la sorcellerie, il y a les derniers de la classe. Vous croyez que c'est seulement en classe?
Amen. Est-ce que quelqu'un ici connaît comment on attribue les totems dans son village?
On vit avec les ossements. Tu choisis. Tu choisis les ossements. On fait la danse. Donne-lui le micro. Parce que les totems, là, en réalité, ce n'est pas l'animal qui vient, hein. C'est les ossements.
Chez nous, avant les ressortissants de la chefferie, quand tu es membre des neuf, lors de l'intronisation, on te revêtit de leurs vêtements. Lors de la danse secrète, il y a une calebasse, il y a tout genre d'ossements. Ce que tu envoies la main, tu prends, c'est ton totem.
C'est ton totem. Alléluia. C'est pourquoi même dans un pays bassa, tous les bonbons ont des ossements humains dans leur sac. Tout vrai bonbon a les ossements humains. Ossements humains. Ils marchent avec jour et nuit. Parce que c'est quand tu l'attaques, il met la main dedans, il secoue. Tu es paralysé. Alléluia. Ils marchent avec les ossements humains. Ce n'est pas les bonbons que vous voyez aujourd'hui, tout le monde met un bonbon sur sa tête, un bonbon sur son nom. Non. On parle des personnes qui ont un pouvoir ancestral. Alléluia. Alors, eux, ils fonctionnent avec des ossements. Si tu ouvres le sac, même s'il se retrouve dans une fête publique, il a toujours son sac là avec lui, avec l'ossement humain à l'intérieur. Ça ne le quitte pas. Alléluia. Alléluia. Alors, là, elle donne les chefs. Les chefs prennent, les notaires prennent. Maintenant, quand tu viens, tu viens à la chefferie, tu veux un totem. Alléluia. On ne te donne pas dans le même principe que les autres. Amen. On prend le deuxième calibre, le bas de gamme. On te donne. Tu secoues, on secoue, on met là, tu envoies la main, tu prends. Ça peut sortir la souris. Ça peut sortir le rat. Alléluia. En attendant que nous on t'attrape, on te mange. Alléluia. Tu assaisonnes bien avec le piment. Le totem là est fort parce qu'il ne connaît pas le piment. Alléluia. Alors, bien aimé, je prie pour toi ce soir. Que le feu visite ton village et consume tous les schémas familiaux qui limitent ta vie au nom de Jésus. Ce qui a tué tes parents, ce qui a tué tes grands-parents ne te tuera pas au nom de Jésus. Ce qui a tué tes ancêtres ne te tuera pas au nom de Jésus. Je révoque tout schéma de mort dans ta famille. Je révoque tout schéma d'accident dans ta vie. Je révoque tout schéma de maladie dans ta vie. Je révoque tout schéma de pauvreté dans ta vie. Je révoque tout schéma de célibat dans ta vie. Je révoque tout schéma d'oppression dans ta vie. Je révoque tout schéma d'échec à la porte du succès dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce chemin est ruiné dans le sang de Jésus.